La Vierge cirage. Chapitre 1. Elle est encore au lit, demi-nue, souriante, la tête renversée et les yeux pleins de sommeil. Un de ses bras se perd dans ses cheveux, l'autre pend hors de la couche, la main ouverte. Le comte, en pantoufle, debout devant une des fenêtres, soulève du doigt le rideau et fume un cigare d'un air absorbé. Vous la connaissez tous. Elle a eu 20 ans hier. Elle en paraît à peine 16. Elle porte au front la plus magnifique couronne que le ciel ait jamais accordée à un de ses anges. Une couronne d'or bruni, une chevelure royale d'un blond fauve, épaisse et forte comme une crinière, douce comme un écheveau de soie. L'onde de feu ruisselle largement sur son cou. Chaque mèche a des révoltes superbes. Ce tord s'allonge puissamment. Les boucles tombent drues et pressées. Les tresses glissent et s'enroulent. La tête entière resplendit, pareille à une aurore éclatante et harmonieuse. Et sous cet incendie, dans cette splendeur et cet éblouissement, apparaissent une nuque blanche et délicate, des épaules pâles, une poitrine laiteuse et transparente. Il y a d'irrésistibles séductions dans ce cou pur et tendre, qui se montre discrètement au milieu de ses cheveux d'une insolente rougeur. Je ne sais quelle passion âpre vous prend à la gorge. Lorsque le regard s'oublie à fouiller cette nuque, aux lumières molles et blanchâtres, aux ombres dorées. On y trouve de la bête fauve et de l'enfant, de l'impudeur et de l'innocence. Une sorte d'ivresse étrange et malsaine qui secoue les entrailles et fait monter aux lèvres de terribles baisers. Est-elle belle? On ne sait. La face entière disparaît sous la chevelure. Elle doit avoir un front bas, des yeux minces et longs, presque gris. Le nez est sans doute irrégulier, capricieux, la bouche un peu grande, d'un rose pâle. Qu'importe d'ailleurs, on ne saurait plus détailler ses traits, tracer le contour de son visage. Elle grise à la première vue, comme un vin puissant grise au premier verre. On ne voit qu'une tache blanche dans une auréole rouge, un sourire rose et un regard au reflet d'argent dans un rayon de soleil. La tête tourne, et on lui appartient trop déjà pour pouvoir étudier une à une ses perfections. Elle est de taille moyenne, je crois, un peu grasse et lente dans ses mouvements. Elle a des mains et des pieds de petite fille. Tout son corps exprime une volupté mûre et paresseuse. Un seul de ses bras nus, plein et éblouissant, donne un vertige de désir. Elle est la reine des soirées de mai, la reine des amours féroces qui s'apaisent dans une nuit. Chapitre 2. Elle repose sur son bras gauche, plié mollement. Elle va s'éveiller tout à l'heure. En attendant, elle soulève à demi les paupières, regardant pour s'habituer au jour le rideau bleu ciel de son lit. Elle est là, perdue au milieu de la dentelle de ses oreillers. Elle paraît abîmée dans la moiteur et dans la fatigue délicieuse du réveil. Son corps s'étend blanc et inerte, à peine soulevé par une légère ondulation. On aperçoit des pâleurs rosées aux endroits où la batiste s'écarte. Rien n'est plus riche ni plus exquis que cette couche et cette femme. Le signe divin a un nid digne de lui. La chambre à coucher est une merveille, d'un bleu tendre, douce, discrète. Les couleurs et les parfums y sont attiédis. L'air y est languissant, agité de courts frissons. Les rideaux ont de larges plis paresseux. Les tapis s'étendent sourds et muets. Le silence et la paix de ce temple, la douceur des lumières, la discrétion des ombres, l'ameublement simple et riche d'une distinction suprême font songer à une divinité qui unit toutes les grâces à toutes les élégances, âme d'artiste et de duchesse vivant en plein ciel. Certes, elle a été élevée dans des bains de lait. Ses membres délicats témoignent de la noble oisiveté de sa vie. Cette couche et cette chambre relèvent les goûts exquis de sa nature. On se plaît à penser que son âme a toutes les blancheurs de son corps. Le comte achève son cigare sans se retourner, vivement intéressé par la vue d'un cheval qui vient de s'abattre dans l'avenue des Champs-Élysées et que l'on essaye en vain de remettre sur ses jambes. Imaginez-vous que la pauvre bête est tombée sur le flanc gauche et que le timon doit lui briser les côtes. Chapitre 3. Au fond de la chambre, sur sa couche parfumée, La belle créature s'éveille peu à peu. Maintenant, elle a les yeux grands ouverts. Elle est restée affaissée, sans un mouvement. L'esprit veille, la chair sommeille. Elle songe. Dans quelle sphère lumineuse vient-elle de monter? Quelles légions angéliques passent devant elle et mettent un sourire imperceptible sur ses lèvres? Quel projet, quelle œuvre d'innocence et de pureté agite son âme? Quelle première pensée, aux blanches de cette intelligence exquise, vient la surprendre au réveil? Ses yeux grands ouverts regardent le rideau. Elle n'a point encore remué, elle est perdue dans son repos, et seules ses paupières frissonnent par instants. Longtemps, elle caresse sa chimère. Puis brusquement, comme obéissant à un appel irrésistible, elle allonge les pieds et saute sur le tapis. La statue s'est faite créature. Elle écarte de son front sa chevelure qui se tord toute flamboyante sur ses épaules de neige. Elle ramène ses dentelles, met ses pantoufles de velours bleu, et croise les bras avec un geste d'un charme indicible. Alors, demi-courbée, les épaules levées, faisant une moue d'enfant sournoise et gourmande, elle trotte à pas pressés, sans bruit, soulève une portière et disparaît. Le comte jette son cigare en poussant un soupir de satisfaction. Le cheval de l'avenue vient d'être heureusement relevé. Un coup de fouet a remis la pauvre bête sur pied. Le comte se tourne et voit le lit vide. Il le regarde un moment, s'avance avec lenteur, et s'asseyant sur le bord de la couche, se met à son tour à contempler le rideau bleu ciel. Chapitre 4. Le visage de la femme est un masque d'airain. Le visage de l'homme est comme une fontaine claire qui livre tous les secrets de sa limpidité. Le comte regarde le rideau et se demande machinalement combien peut coûter le mètre de cette étoffe précieuse. Il additionne, il multiplie par pure distraction et arrive à un chiffre fort raisonnable. Puis, sans le vouloir, entraîné par la relation des idées, il évalue la chambre à coucher entière et il trouve une somme effrayante cette fois. Sa main s'est posée sur le lit, au bas de l'oreiller. La place est tiède. Le comte oublie le temple pour songer à l'idole. Il regarde la couche, ce désordre voluptueux que laisse toute belle dormeuse, et à la vue d'un fil d'or qui brille sur la blancheur de la toile, il se perd dans la pensée de cette femme douce et terrible. Puis, deux idées se rapprochent et s'unissent dans son esprit. Il songe à la femme et à la chambre tout à la fois. Il trouve que l'une est digne de l'autre. Sa pensée se complaît dans une longue comparaison entre la jeune fille et les meubles. Les tentures et les tapis. Tout y est harmonieux, nécessaire et fatal. Ici, la rêverie du comte s'égare, et par un de ces mystères insondables de la pensée humaine, il en arrive à songer à ses bottes. Cette idée que rien n'amène envahit soudain son esprit. Il se souvient que depuis 3 mois environ, chaque matin, lorsqu'il sort de cette chambre, il trouve ses bottes admirablement nettoyées et cirées. Il se berce mollement dans ce souvenir. La chambre est splendide. La femme est divine. Le comte regarde de nouveau le rideau bleu ciel et le fil d'or sur le drap blanc. Il s'approuve. Il déclare qu'il a réparé une erreur de la Providence en mettant dans l'or et dans le satin cette reine de grâce que la fatalité a fait naître d'un égoutier et d'une portière au fond d'une loge noire et sordide de la barrière Fontainebleau. Il s'applaudit d'avoir donné un nid sans tache à cette merveille pour la bagatelle de 500 000 francs. Le comte se lève et fait quelques pas. Il est seul. Il se rappelle que, depuis 3 mois, il a ainsi chaque matin un grand quart d'heure de solitude. Alors, sans curiosité, simplement pour marcher, il soulève la portière et disparaît à son tour en quête de ses chers amours. Chapitre 5. Le comte visite 4 ou 5 pièces et ne trouve personne. Comme il revient sur ses pas, il entend dans un cabinet un bruit de brosse violent et continu. Pensant qu'une servante est là et désirant la questionner sur l'absence de sa maîtresse, il pousse la porte et passe la tête. Il s'arrête sur le seuil, stupéfait, béant. Le cabinet est petit, peint en jaune, avec une épaisse bande brune à hauteur d'homme. Il y a dans un coin un seau avec une grosse éponge, dans un autre un balai et un plumeau. Un large vitrail jette une lumière crue sur la nudité de cette sorte d'armoire très haute et très étroite. L'air y est humide et frais. C'est là un de ces coins où les domestiques déposent leurs torchons. Il y règne une odeur de poussière. Au milieu, sur un paillasson, est assise la belle aux cheveux d'or, les pieds ramenés sous elle. À sa droite est un pot de cirage avec un pinceau, et une brosse noircie par l'usage, encore grasse et mouillée. À sa gauche est une botte, luisante comme un miroir, chef-d'œuvre de l'art délicat du décrotteur. Autour d'elle sont semés des éclats de boue, une fine poussière grise, et plus loin gît le couteau qui a servi à décrotter des semelles. Elle a entre les mains la seconde botte. Un de ses bras disparaît tout entier dans le fourreau de cuir. Sa petite main tient une énorme brosse aux crins longs et soyeux et frotte avec acharnement et désespoir le talon qui s'obstine, paraît-il, à ne pas reluire. Elle a emmailloté dans ses dentelles ses jambes nues, qu'elle tient écartées. Des gouttes de sueur roulent sur ses joues et ses épaules, et par instant, elle s'arrête une seconde pour rejeter avec impatience des boucles de cheveux qui tombent sur ses yeux. Sa poitrine et ses bras d'albâtre sont couverts de mouches, les unes minces comme des piqûres d'aiguilles, les autres larges comme des lentilles. Le cirage, chassé par les crins de la brosse, a constellé cette blancheur éclatante d'étoiles noires. Elle pince les lèvres, les yeux humides et souriants. Elle se courbe amoureusement sur la botte, paraissant plutôt la caresser que la frotter. Elle est toute à sa besogne et s'oublie dans une jouissance infinie, secouée par ses mouvements rapides et toutefois attentive jusqu'à l'extase. Le vitrail verse sur la belle enfant sa lumière froide et aiguë. Un large rayon blanc tombe droit, enflamme la chevelure, donne des tons rosés à sa peau, bleuit tendrement les dentelles, montre cette merveille de grâce et de délicatesse étalée en pleine fange. Elle est là, gourmande et heureuse. Elle est fille de son père, fille de sa mère. Chaque matin, au réveil, elle songe à sa jeunesse, cette belle jeunesse passée dans l'escalier noirâtre et gluant, au milieu des savates de tous les locataires. Elle songe, et il lui prend des envies féroces de décrotter quelque chose, ne serait-ce qu'une pauvre petite paire de bottes. Elle a la passion du cirage, comme d'autres ont la passion des fleurs. C'est son goût honteux, à elle. Elle y trouve d'étranges délices, des voluptés cuisantes, et elle ne pourrait pas vivre si elle ne se noircissait les bras, si elle n'émiettait un peu de boue chaque jour. Alors, elle se lève, et va, dans son luxe, dans sa beauté immaculée, gratter les semelles fangeuses du bout de ses mains blanches, et vautrer sa délicatesse de grande dame dans la sale besogne d'un palefrenier. Le comte tousse légèrement, et lorsqu'elle a levé la tête, surprise et effarouchée, il lui prend les bottes des mains, les chausse, lui donne 5 sous, et se retire tranquillement. Chapitre 6. Le lendemain, la Vierge au cirage se fâche et écrit au comte. Elle réclame un dédit de 100 000 francs. Le comte répond qu'il reconnaît en effet lui devoir quelque chose. Un nettoyage de bottes à 25 centimes par jour fait 23 francs au bout de 3 mois. Il lui envoie 23 francs par son valet de chambre. Et comme la Vierge au cirage se récrie, pleure et suffoque de honte, le valet de chambre lui dit d'un ton poli. Eh, mon Dieu, madame, puisque vous êtes du métier, je ne sais pourquoi vous vous plaignez. Vous êtes largement rémunérée. Mon maître cherchait sans doute en vous une femme et non un décrotteur. Il vous paye comme un décrotteur et non comme une femme.